Il voyait déjà croître autour de lui une progéniture nombreuse, née d'un merveilleux amour, et qui mêlerait dans ses veines le libre sang siennois au noble sang de France. Il allait être le grand Baglioni, chef d'une puissante dynastie. Il songeait à franciser son nom, à devenir Baglion de Naufles. Le roi lui conférerait bien une seigneurie, et le fils que portait Marie, car il n'était pas douteux que ce fût un garçon, serait un jour armé chevalier. Il ne sortit de ses songes qu'en entendant une galopade crépiter sur les pavés de Naufles, et puis s'arrêter devant le comptoir. Le heurtoir de la porte résonna avec violence. « Où est-il ce coquin, ce pandard, ce juif ?» cria une voix que Guccio reconnut aussitôt pour celle de Pierre de Cresset. Et comme on n'ouvrait pas assez vite, des manches des pieux se mirent à cogner sur le bâton de chêne. Guccio porta la main à sa ceinture. Il n'avait pas sa dague sur lui. Le pas de Ricardo, pesant, descendait l'escalier. « Voilà, voilà, j'arrive !» disait le premier commis d'une voix d'homme mécontent d'être tiré de son sommeil. Puis il y eut un bruit de verrou tiré, de barres qu'on glissait, et aussitôt après, les éclats d'une discussion furieuse dont Guccio ne saisissait que des bribes. « Où est ton maître ? Nous voulons le voir sur le champ !» Guccio ne percevait pas les réponses de Ricardo, mais la voix des frères Cresset reprenait plus forte. « Il a déshonoré notre sœur, ce chien, cet usurier ! Nous ne partirons au point que nous n'ayons sa peau !» La discussion se termina par un grand cri. Ricardo venait certainement d'être frappé. « Fais-nous de la lumière !» ordonnait Jean de Cresset. Et Guccio saisit encore la voix de Pierre qui lançait à travers la maison. « Guccio, où te caches-tu ? Tu n'as donc de courage que devant les filles ! Ose donc apparaître, lâche puant !» Des volets s'étaient entrouverts aux fenêtres de la place. Les villageois écoutaient, chuchotaient, ricanaient, mais nul d'entre eux ne se montra. Un scandale est toujours divertissant. Et le tour joué à leur petit seigneur, à ces deux garçons qui les traitaient de si haut et les requéraient sans cesse pour des corvées, leur procurait un certain plaisir. À choisir, il préférait le Lombard, sans aller toutefois jusqu'à risquer la bastonnade pour lui. Guccio ne manquait pas de bravoure, mais il lui restait un grain de cervelle. Il eût tiré peu de profit, n'ayant pas même un stylet au côté d'affronter deux furieux en armes. Tandis que les frères Cresset fouillaient la maison et passaient leur colère sur les meubles, Guccio courut à l'écurie. La nuit lui porta encore les voix de Ricardo qui gémissait. « Mes livres, mes livres !» Guccio pensa « Tant pis, ils ne parviendront pas à faire sauter les coffres. » La lune donnait assez de clarté pour lui permettre de passer en hâte une bride à son cheval. Il le sella à l'aveuglette, empoigna la crinière pour s'aider à monter et s'échappa par la porte du jardin. Ce fut ainsi qu'il quitta sa banque. Les frères Cresset, entendant son galop, se précipitèrent aux fenêtres de la maison. « Il fuit, le couard, il fuit! Il prend le chemin de Paris! Oh là, Manon, suce à lui! Qu'on lui coupe la route !» Personne, évidemment, ne bougea. Les deux frères, alors, surgirent du comptoir et se lancèrent à la poursuite de Guccio. Mais la monture du jeune Lombard, un coursier de belle race, sortait fraîche de sa stalle. Les chevaux des Cresset étaient de pauvres bidets de campagne qui avaient déjà fait leur journée. Vers Rennes-Moulins, l'un d'eux se mit à boiter si bas qu'il fallut l'abandonner. Et les deux frères durent monter sur le même cheval qui, de surcroît, étant cornard, produisait avec les naseaux un bruit de râpe à bois. Si bien que Guccio eut le temps de gagner une large avance. Il arriva rue des Lombards à l'aurore et sortit son oncle du lit. « Le moine ! Où est le moine ? » lui demanda-t-il. « Quel moine, mon garçon ? Que t'arrive-t-il ? Tu veux entrer dans les ordres, maintenant ? Mais non, oncle Spinello, ne vous moquez point de moi ! Il me faut retrouver le moine qui a prononcé mon mariage ! On me poursuit et je suis en péril de la vie !» Il conta d'une traite son histoire. Il lui était indispensable d'obtenir le témoignage du moine. Spinello Tolomei l'écoutait, un œil ouvert, l'autre fermé. Il bâilla à deux reprises, ce qui irrita Guccio. « Ne t'agite pas tant. Le moine est mort, » dit enfin Tolomei. « Mort ? » fit Guccio. « Eh oui, la sottise de te marier t'aura au moins évité la sottise de mourir. Car si tu étais allé, comme Monseigneur Robert le voulait, porter son message aux alliés d'Artois, tu n'aurais sans doute plus à t'inquiéter pour les petits-neveux que tu me donnes sans que je t'y encourage. Fra Vincenzo a été oxy du côté de Saint-Paul par les gens de Thierry d'Irson. Il avait sur lui 100 livres à moi. Ah, Monseigneur Robert me coûte cher. » Tolomei sonna son valet pour qu'il lui apportât un bassin d'eau tiède et ses vêtements.